courageux qui ont pu lire toute la nuit et venir encore maintenant, pour parler de la science-fiction lecture plaisir. Donc pour en parler, nous avons non seulement des écrivains, mais également des spécialistes de l'univers de la science-fiction, que ce soit Laurent Genefort, Jean-Claude Duniac.
Bonjour.
Bonjour. Ça marche, oui, ça marche.
François Barranger et bonjour. Olivier Paquet. Bonjour. Donc, avec leurs interventions, ils présenteront un peu plus leur spécificité. Alors, science-fiction, lecture, plaisir. C'est vrai que quand on parle de science-fiction en dehors des imaginales, on a des réactions assez variées entre ceux qui considèrent que c'est un genre pour adolescents attardés avec beaucoup de batailles, beaucoup d'actions et pas grand-chose dedans, et ceux qui ont essayé d'en lire en disant « j'ai essayé, mais c'est trop compliqué ». Donc on se retrouve un peu avec les deux images quasiment opposées. Alors on peut se demander si entre les deux, il y a vraiment de la place pour une lecture plaisir, mais il se trouve qu'il y a quand même des passionnés qui depuis tout gamin ont commencé à en lire et au final ils ne décrochent plus. Je crois que autour de cette table, nous avons surtout ce genre de personnes qui ont commencé très jeunes à découvrir la science-fiction et qui ont pris du plaisir, bien que les thématiques abordées soient plutôt des thématiques souvent sombres qui font réfléchir sur le devenir de l'être humain, sur le devenir de l'humanité, du monde, et malgré tout, on parle de lecture plaisir. Alors, je vais peut-être commencer par demander à Laurent Genefort, mais pourquoi aimer la science-fiction et qu'est-ce que la science-fiction, tout d'abord ?
Oula, alors je tente.
On est tranquille jusqu'à demain.
On tentera pas de la définir, mais.
Non, pas de la définir, mais.
C'est tellement vaste que dedans on trouve de Star Wars. Star Wars, Lucas l'a revendiqué comme une. Comme de la science-fiction de plaisir, justement. Et par opposition à ce qu'il avait fait avant, THX 1138, où il avait renoncé à ce type de science-fiction qui, pour lui, ne pouvait pas convenir, justement, à du spectacle de pur plaisir, ce qu'il avait l'ambition de faire. Moi, je pense que le plaisir, il est dans plein de choses. Il est dans déjà le fait même que ce soit une fiction. Moi, de base, quel que soit le contenu, c'est du plaisir. Même si c'est une lecture qui peut être angoissante, angoissante façon de parler en fait.
Quand ça s'arrête.
Mais en tout cas, oui, voilà une lecture qui provoque des tensions, etc. Mais là, je m'imagine plutôt comme lecteur pour le coup. Il y a toujours une jubilation, moi, en tant que lecteur, de participer à un objet spéculé, à une pelote qui se dévide, une pelote mentale qui se dévide, et on accompagne l'auteur dans le développement d'un thème. Pour moi, le plaisir, il est là. Enfin, entre autres, il y a aussi les images, il y a aussi plein de choses. Mais de base, même les récits apocalyptiques ou qui paraissent très sombres, même si on va pas se rouler par terre de joie, mais en tout cas il y a cette espèce de plaisir de voir un développement mental, enfin une hypothèse qui se développe. Voilà. Et ça en soi c'est un plaisir qui est peut-être le plaisir spécifique à la SF en fait.
Je suis d'accord avec toi. Oui, pour moi, clairement, je fais partie de ces gens qui tirent du plaisir à lire depuis tout petit. Il faut croire que j'ai la bonne zone érogène. En tout cas, elle est suffisamment étendue. Et croyez-moi, vous me caressez avec les pages d'une histoire, ça marche très bien. Mais je dirais que la fiction, et la science-fiction en particulier, c'est quelque chose dans lequel on aide l'auteur à construire le labyrinthe qui nous enferme. Ce qui veut dire qu'on est à la fois des gens qui acceptons de nous perdre. Il y a cette espèce de contrat dès le départ. On accepte de tomber dans le livre sans être sûr de la façon dont on en sortir et surtout sans être sûr de qui on sera quand on en sortira. On accepte l'hypothèse de la métamorphose, on accepte le fait d'être bouleversé, d'être changé, d'être secoué, d'être amusé, d'être tout un tas de choses. On l'accepte. C'est une espèce de rapport qui est effectivement un rapport de plaisir parce que à l'autre bout quand même on est censé en ressortir satisfait. Ça c'est du point de vue du lecteur. Et il y a une deuxième catégorie de plaisir, parce que la science-fiction est une littérature plaisir aussi pour les auteurs, qui est justement ce travail de comment je construis, comment j'enferme, comment je fais la coquille de l'œuf, comment je la casse à la fin, comment je joue avec ce que je suis moi-même, et qui est aussi une façon de s'enfermer dans son propre labyrinthe et de voir comment soi-même on réussit à en sortir.
François Barranger, pour vous, non seulement vous écrivez, mais également vous dessinez, vous concevez les univers liés à la science-fiction. Donc ça a été nourri aussi par des lectures, ça a été nourri.
C'est vrai que moi, étant illustrateur de formation, j'ai un rapport à la SF qui est très très visuel à la base. Et je suis même venu à la SF par l'image. Je me souviens quand j'étais plus jeune, les livres qui traînaient chez moi ou dans la chambre de mon grand frère, qui est des vieux livres de SF, c'était les couvertures de Chris Foss qui m'ont attiré d'abord. C'est-à-dire des couvertures très, avec une ambiance très particulière, jamais de personnages, toujours des vaisseaux très bariolés, très curieux. Et un grand illustrateur des années 70 qui avait travaillé sur un projet malheureusement abandonné d'adaptation de Dune par Ridley Scott. C'est quelqu'un qui a un univers absolument passionnant. Et ça, moi, ça m'a vraiment attiré. C'est quelque chose qui me frappait étant jeune. Et j'ai eu aussi des premiers rapports avec la science-fiction qui étaient vraiment un tout petit, avec un film qui est encore connu dans les milieux cinéphiles mais qui commence à disparaître un peu des mémoires du grand public, qui est Planète Interdite. Mm-hmm. Planète Interdite, c'est un film qui était déjà vieux quand moi j'étais petit, que j'ai vu donc, ça devait être la fin des années 70 quand j'avais encore moins de 10 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Un film qui m'a très impressionné, qui m'a même fait peur. Il y a des scènes avec une espèce de monstre géant invisible qui déchiquette des astronautes dans leur soucoupe posée sur une planète inconnue. C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et qui est probablement en grande partie à l'origine de l'intérêt que je porte à la SF. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que... Moi, j'ai toujours pensé que la SF, c'est un contexte. C'est pas un sujet en soi. C'est pour ça que on m'avait demandé de définir la SF, je ne m'en serais pas aussi bien tiré que Laurent. J'aurais eu vraiment du mal. Parce que
Laurent a déjà réfléchi au sujet. C'est peut-être pour ça.
C'est ta définition qui est la bonne.
Je pense que c'est très difficile de positionner le curseur correctement pour dire tel récit de la SF. Bon, il y en a certains pour lesquels c'est évident, mais d'autres qui sont vraiment à la limite du genre. Et où ça devient flou, ça devient un peu confus. On a des récits très anciens, parfois plusieurs siècles, où aujourd'hui, ça ne nous vient pas l'idée d'appeler ça science-fiction parce qu'il n'y a pas de science dedans, mais qui, pour l'époque, sont de la science-fiction. Quand on lit ce très vieux poème de Coleridge qui s'appelle Le Dit du Vieux Marin, je ne vois pas tellement de différence avec n'importe quelle grande superproduction hollywoodienne d'aujourd'hui, genre World War Z ou des choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est une espèce de chose un peu diffuse, un peu complexe. Et pour en revenir juste à Forbidden Planet, ce que peu de gens savent, c'est que c'est l'adaptation d'une pièce de Shakespeare. C'est La Tempête qui est transposée en science-fiction. Et ça, pour moi, c'est vraiment le symbole absolu du fait que la SF, c'est un contexte. Donc on peut faire ce qu'on veut. On peut prendre n'importe quelle histoire et lui donner une connotation SF. Et à l'inverse, une histoire connue en SF, en principe, on doit pouvoir l'extraire de son contexte et l'adapter n'importe où ailleurs.
Oui, enfin, je suis relativement d'accord. Sauf que justement, dire le contexte SF, qu'est-ce qui fait un contexte SF? Effectivement, on ne résout pas la question en disant il n'y a pas, on ne sait pas ce qu'est la définition, mais il faut qu'il y ait un contexte SF. La Tempête de Shakespeare dans le futur, en quoi c'est SF? Bon, et ça, c'est un sujet. Je veux revenir sur le fait que on a des récits de SF qui sont angoissants, qui parlent de catastrophes ou autres. Cet aspect-là, est-ce qu'on peut en tirer du plaisir? On en tire autant de plaisir qu'un enfant à qui on dit, on récite un conte. Les contes, c'est des choses horribles. Il suffit de prendre les versions de Grimm. C'est horrible, mais c'est un plaisir quand même, parce que par-dessus tout ça, à travers toutes ces horreurs, le petit poussé, on vous abandonne dans la forêt, c'est quand même... Et c'est un conte pour les enfants. Et pourtant, les enfants, ils peuvent écouter ça avec plaisir. Mais en même temps, il y a une fin, il y a une résolution, d'une certaine manière, de la peur. Donc la science-fiction est un conte aussi. Alors en quoi, finalement, la science-fiction est spécifique, de mon point de vue? D'une part, en tant que lecteur, pourquoi je suis venu à la SF? Une anecdote assez simple, c'est-à-dire que...
C'est la même histoire dans un contexte différent, ce n'est plus totalement de la science-fiction. La science-fiction est une littérature tellement liée à son contexte, est tellement liée aux tropes de narration de la science-fiction, qu'on ne peut pas la transposer simplement. Alors que c'est vrai qu'il peut y avoir une histoire d'amour extraordinaire, centrale à chaque bouquin, et on se dit la même histoire d'amour, elle peut arriver dans un de pièces cuisine, dans un HLM, c'est pas un souci.
Mais il faut, on a refait Roméo et Juliette.
Oui, ça c'est pas un souci. Mais par contre, la métamorphose doit apparaître à un moment donné ou à un autre. Et vraiment, dans les lettres mères, personne, elle n'appartient pas. Elle n'apparaît pas. C'est vraiment, les autres là-bas, ils ne sont pas pareils que nous, regardez comme ils sont drôles. Et en même temps, si on y réfléchit bien, on doit leur apparaître aussi drôle, nous, quand on est là. Mais surtout, ne changez rien. Tandis que la science-fiction, c'est préparez-vous à changer.
Laurent ?
Pas mieux.
Pas mieux.
Je relance.
Par rapport aux thématiques liées à la science-fiction, est-ce qu'il y a des domaines qui te paraissent plus intéressants ou...
Non, mais je partage assez ton point de vue, c'est-à-dire la science-fiction, elle prend beaucoup et elle a sa spécificité. Enfin, elle prend beaucoup à tous les genres et à toutes les formes de réel. Et elle a ce petit truc à part, pour moi, qui est ce petit plaisir, qui est ce plaisir de changer les choses, mais les choses étant pas forcément dans une histoire, ça peut être le thème, enfin ça peut être le personnage, ça peut être plein de choses. En fait.
Mais toi, justement, Laurent, tu as une chose dans laquelle tu excelles, c'est l'invention et l'invention permanente d'abord d'écologie et maintenant d'espèces étrangères à nous qui vivent là-dedans. Et il y a une espèce de jubilation de ta part à créer des écologies extraordinaires et à les peupler d'êtres encore plus extraordinaires. Tu nous l'as fait dans Alien Monde d'Emploi, tu nous l'as fait dans Omal, bien entendu. C'est extraordinaire. Tu inventes des eaux, littéralement.
Oui, mais en fait, l'écriture, c'est aussi... Alors du coup, on va passer du côté de l'écriture.
Et quand on crée, le plaisir de créer cet univers...
Ouais, c'est une prolongation du plaisir de lecture, quelque part. C'est restituer ce qu'on a pris pendant des années, et les années de formation, on va dire, donc de gamin. Toi, c'était la fondue savoyarde, hein, j'ai bien compris. Moi, c'était le voyage au centre de la Terre, la version hollywoodienne, le film hollywoodien que j'ai vu sous un préau quand j'étais au primaire. Et voilà, chacun. Effectivement, moi, c'est aussi passé par l'image, comme François. Ça a été vraiment les deux. Finalement, l'aspect justement spéculatif, il est arrivé un peu plus tard. Mais je crois que d'abord, c'est arrivé par l'image, parce que c'est ce qui est le plus manifeste. On pense en image quand même. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrivait de plus manifeste. Moi, ce dont je me souviens, enfin mes premiers émois de lecteur de SF, c'était avec par le cinéma, et puis aussi par un livre de Philippe Eblis, où les héros, donc le groupe de gamins. Se retrouvaient, en fait, utilisaient une machine temporelle, et en fait, cette machine temporelle, elle les envoyait 5000 ans à 5000 ans de là, mais ils ne savaient pas si c'était vers le passé ou vers le futur. Il y avait 50 chances sur 100 que ça arrive vers le passé ou le futur. Et en fait, pendant une partie du roman, ils pensent être dans le passé parce qu'il y a des plantes géantes. Il y a des créatures bizarres, des scolopendres d'un mètre de long, etc. Jusqu'à ce qu'ils essayent de s'évader de cette forêt étouffante, et avec un ciel gris, une sorte de chape autour, et ils luttent contre un champ de force. Et là, ils se rendent compte que tout à coup, il y a cette espèce de switch où on se rend compte qu'on est dans le futur. Et là, voilà, pour moi, j'étais ferré, quoi. j'ai été ferré pour la vie parce que toute la science-fiction se trouvait là-dedans, c'est-à-dire la sidération de ce tout à coup de croire qu'on est dans le passé et en fait non, on est dans le futur et qu'il y a eu un accident nucléaire et en fait il y a eu une espèce de champ de force de protection qui s'est mis et tout ce qui était à l'intérieur a continué de muter parce que c'était probablement une centrale nucléaire qui s'est emballée et la forêt a poussé mais une forêt mutante etc. Enfin c'est voilà, j'ai été pris là-dedans et quand on a je devais avoir une dizaine d'années c'était ça y était quoi.
Ou les troupes de la planète des singes. Où on ne sait pas où on est par rapport à l'humanité.
Voilà. Ouais.
Oui, il y a ça aussi.
Voilà, c'est exactement ça.
Et justement, peut-être une spécificité quand même de la science-fiction par rapport à d'autres lectures et d'autres écritures, c'est qu'on est obligé de tout décrire, de décrire en détail l'univers, puisqu'on n'a pas de référence, ou du moins on a des références lointaines. On va parler d'un sapin, on sait ce que c'est un sapin, mais si on décrit un type d'arbre sur un nouvel univers, il va falloir donner sa biologie, ou du moins en donner suffisamment pour tenir l'intrigue.
Alors il y a le plaisir démiurgique, hein, clairement, et là aussi, le fait d'écrire, c'est aussi pour moi une prolongation du plaisir. Il y a un côté créateur chez le lecteur aussi, quand il se représente le monde qu'on lui propose. Comme c'est de la littérature, et ben c'est pas de l'image, justement. Et donc le lecteur, il va se fabriquer ses propres images qui lui sont toutes personnelles. Il suffit de voir quand il y a une adaptation, c'est toujours décevant parce que ça fixe l'imaginaire de quelqu'un, enfin, ou d'un petit groupe de personnes qui est pas vous. Donc c'est forcément décevant. Sauf évidemment dans les bonnes œuvres cinématographiques du genre Blade Runner, etc., qui amènent une nouvelle iconographie, enfin qui va devenir emblématique.
Un détail mais qui est tout à fait anecdotique par rapport à ce que tu dis. On parle de l'image, mais l'apport aussi de la littérature différent du cinéma, c'est que justement on peut faire appel à tous les autres sens. C'est-à-dire on peut appeler l'odorat, le toucher, le goût. Et on peut faire goûter à un lecteur un plat du futur, un plat sur une autre planète, donc lui faire découvrir quelque chose de nouveau.
Oui, il y a ça.
Qui est aussi un apport de la littérature de science-fiction par rapport. Il n'y a pas que l'image, il faut aussi.
C'est la force de la littérature, voilà. C'est d'arriver à te faire sentir des choses, mais littéralement sentir. Voilà. Bon, là, souvent, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Mais oui, ça, c'est la force de la littérature. Ben, mais en même temps, il y a eu je rattrape quand même l'image pour moi, par exemple, la BD a été aussi, la bande dessinée a été aussi importante que la littérature chez moi, parce qu'elle a aussi même l'image fait rêver parce qu'on va la déformer et on va se la représenter. Et puis, et c'est aussi une vision d'artiste. Tu parlais de Chris Faust tout à l'heure. Voilà, c'est un monde en soi.
Mon BD, Lincal, je pense, c'était comme
oui,
moi.
Voilà, pareil, oui, voilà, pareil. Ou Jérémia, ou des tas de choses comme ça.
Et peut-être, François, vous avez commencé par créer des univers visuels, et maintenant vous avez écrit un roman. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a le même plaisir, un plaisir différent, une frustration de ne pas pouvoir...
Pas du tout. J'ai l'impression que c'est la même chose, en fait.
D'accord.
Quand j'imagine, quand j'invente une image ou quand j'invente une histoire, j'ai pas l'impression de faire deux choses différentes. Alors évidemment, il y a un aspect narratif où on essaie de contrôler le tempo dans une histoire qui a beaucoup moins dans une image, parce qu'une image, on l'appréhende d'un coup. On peut avoir une petite narration dans une image, avoir... une promenade du regard, mais bon, c'est quand même pas comparable. Mais sinon, moi, j'ai vraiment l'impression que le processus créatif est le même. Et c'est-à-dire que j'ai en permanence des images qui se forment, des images au sens soit visuel, soit des images littéraires, qui se forment dans mon esprit, des idées de scène, des idées d'histoire, des idées de personnages qui sont 99% du temps mauvaises et sans intérêt, mais elles se forment sans arrêt. Et donc, j'éprouve le besoin de les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Pendant longtemps, ça a été par l'image, et puis... j'ai toujours eu cette tentation de tenter l'écrit, justement. Et puis, bon, j'ai fini par le faire, ça a pris du temps, mais j'ai fini par le faire. Mais j'ai vraiment l'impression... D'ailleurs, on me dit souvent que les descriptions sont descriptions purement visuelles, c'est-à-dire de scènes, sont plutôt très explicites et très, très claires dans ce que j'écris. C'est peut-être dû à ça. Peut-être que du fait de mon métier qui m'oblige, quand on fait une image, quand on crée une illustration, on est obligé de l'imaginer entièrement dans sa tête. Si, enfin, bon, après ça dépend des artistes, mais c'est quand même très compliqué de partir au hasard et d'avoir une composition qui tienne la route, d'avoir une lumière qui est cohérente, d'avoir une gamme colorimétrique qui tient la route, etc. Pour ça, on est quand même obligé d'avoir l'image qui est très claire dans son esprit et d'essayer de la retranscrire sur le papier, ce qui est d'ailleurs pas souvent le cas, on n'y arrive pas. Mais et donc cet exercice auquel, par la force des choses, je m'astreins maintenant depuis longtemps, peut-être qu'il influence aussi ma façon d'écrire. Quoi. Ça, c'est bien possible.
Et Jean-Claude, par rapport à la construction visuelle de l'univers, comment tu te situes? Est-ce que tu aimes décrire? Parce que c'est vrai que le fait de décrire en détail un process et d'écrire une scène, c'est pas la même chose.
Oui, alors pour en revenir au plaisir, alors là, à mon plaisir d'écrivain, moi, mon plaisir, c'est à la fois de décrire les nouveaux jouets pour que je puisse jouer avec, et en même temps de les casser ou tout au moins de les utiliser d'une façon qui n'est pas prévue. Donc j'ai besoin.
Ça c'est notre côté garçon.
C'est notre côté taquin, je pense.
Oh, garçon, si les garçons, ils aiment bien construire et puis ils construisent des maquettes, puis ensuite il faut les.
Ben, moi c'était pas tout à fait le fait. En fait j'ai découvert la science-fiction bizarrement justement puisque tu parles de maquettes, grâce aux maquettes. J'étais maquettiste quand j'étais gamin, je faisais des maquettes d'avions, de machins, de bateaux, enfin j'ai plein de trucs. Et j'ai fait à un moment donné une assez grande série de maquettes d'avions. Et comme dans toute maquette d'avion, il reste des pièces. Il y a des pièces qu'on vous met en plus qui sont la version alternative au moteur droit, la version alternative avec un double carénage, etc. Donc il me restait des machins. Bon. Et moi, j'aime pas jeter. C'est compulsif chez moi. Donc j'ai pris ma colle et j'ai commencé à me fabriquer des vaisseaux spatiaux constitués littéralement mais de briques et de brocs avec les pièces qui restaient de mes maquettes de machins. Bon. Et on peut faire de très très bons vaisseaux spatiaux avec les restes des avions américains de la Seconde Guerre mondiale, je vous le garantis. À mon avis, l'apparition des ovnis, c'est ça. Je pense qu'il y a des mecs qui se sont amusés dans leur garage. Bon. Et donc, la science-fiction, ça a été un moment donné de me dire, mais ces objets disparates qui sont a priori dotés d'une fonction, je les récupère, je les réutilise et j'en fais mon truc. Et mes parents me voyaient suspendre dans ma chambre des machins. Ils me disaient, mais on t'a pas acheté ça? Et je disais, non, ça vient de là. Ils trouvaient ça très marrant, d'ailleurs. Après, j'ai lu, après, j'ai vu des films, après, j'ai vu des BD, mais j'ai commencé par faire ça. Voilà. Et donc, mon plaisir, c'est littéralement de bricoler, d'amener des machins, de jouer avec des choses, faire des choses très grandes ou très tordues ou très bizarres, de réinventer l'humain que je suis, de réinventer la manière dont le monde parle à l'humain, de réinventer la personne avec qui je vais parler. Et à partir de là, effectivement, je suis obligé de décrire, mais je décris plus les interactions, je décris plus la manière dont on communique, dont on échange, dont on partage, que le fait de dire l'extraterrestre avait 3 mètres de haut, il met 12 tentacules, il était vert, je veux dire ça. Je le fais parce qu'à un moment donné, on a besoin de fixer certaines choses, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va se dire et quel est le contact de sa tentacule sur ma main. Ça m'intéresse. Et d'ailleurs, un jour, j'ai écrit un livre pornographique, ça venait à peu près du même besoin, mais ça s'est traduit différemment.
D'accord. C'est une dimension qui m'avait... que j'avais pas formalisé quand je parlais de justement du plaisir de dévider une pelote mentale, c'est cet aspect ludique justement que tu as et c'est du jeu. La SF c'est un jeu où on prend un objet mental, un thème, ce qu'on veut, et on va explorer les limites de ce, voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin que ce que les autres auteurs ont fait ou que ce qu'on a lu. C'est un exercice, mais c'est un exercice ludique en fait. Il y a un côté simulation, je trouve, dans la SF. C'est-à-dire qu'on pose des bases qui sont les règles de la simulation, et on va essayer de faire dérailler le système, de voir si on pousse à bout, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va vers un effondrement du système ou un nouvel équilibre, etc., etc. En fait, c'est quelque chose qui ressemble un peu, qui a un côté. Il y a un côté simulation informatique dans le développement d'un monde. Quand on crée un monde et qu'on va essayer de le...
On a finalement une démarche scientifique aussi en science-fiction, d'une certaine manière, parce qu'une partie...
parce que c'est pas fait n'importe comment. Il faut reste dans le vraisemblable. Pas dans le vrai, mais dans le vraisemblable.
Il y a aussi l'aspect expérience philosophique. Et si le temps n'était pas ce qu'on croit? Et si...
Alors ça, c'est les règles du système qu'on va instaurer. Et on va voir ce que voilà les conséquences sur la réalité qu'on va poser. Et après, tout est affaire de curseur, quoi, comme dans les systèmes.
Et quelquefois, il n'y a tout simplement pas de conséquences ou pas de conséquences rigolotes. Je veux dire, si on avait un bras supplémentaire, ben oui, c'est un truc intéressant, mais on en ferait quoi ? Ben pratiquement la même chose.
Tout dépend où il est placé.
Voilà, c'est... Oui, ça fait penser à cette histoire de science-fiction où les gens te disent, mais les martiens sont exactement comme nous, à part les filles qui ont les seins dans le dos. Et tu leur dis, mais ça doit être horrible pour dormir. Mais oui, mais pour danser. Et là, tu peux construire une histoire. J'essaie de vous réveiller hein, parce qu'il est quand même 10h30 et c'est des astuces d'écrivain tantôt, mais ouais. Une scène choc là, voilà, ouais.
Mais ça fait très pulp années 30
et ça fait, en même temps on visualise, vous voyez ce que je sais pas.
Mais pour parler de justement cette expérimentation, une anecdote d'auteur, de technique, c'est à dire que dans le monde donc, du Melkin, la trilogie Space of que je viens de publier, à un moment, j'étais parti du principe, je vais créer un monde avec la communication instantanée, qui est un concept de science-fiction hyper classique. Bon, ça s'appelle l'ancible chez Ursula Le Guin. Mais dans mon roman, on parle de fréquence, c'est-à-dire d'empire de communication, donc il fallait que je décrive ce qui se passe concrètement quand il y a une communication instantanée. Et je me suis aperçu, et donc en réfléchissant à ça, je me suis aperçu que, ah oui, mais ça change en fait, parce qu'évidemment, nous, quand nous communiquons à travers Internet, nous savons en principe qu'on part d'un point A, ensuite ça passe par un tuyau qui va à un point B, bon, ça va super vite. On a l'impression parfois que c'est instantané, puis sauf quand vous avez la 3G qui n'est pas bonne, etc., vous apercevez que ce n'est pas instantané. Quoi. Et que, imaginez ce que c'est vraiment une communication instantanée, où il n'y a pas de temps entre le moment où on émet le message, où il est reçu, et même si on est à des années-lumière les uns des autres, ça change totalement la perspective. Et donc je me suis aperçu que, ah oui, ça changeait tout à fait. Moi, il fallait que je modifie, moi, en tant qu'auteur, ma conception. On n'était plus dans un réseau, mais dans des configurations. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plus vraiment le point A, un truc géographique, mais c'était une configuration de relations entre des individus, des tribus qui se constituaient, mais qui en fait étaient toutes réunies au même point. Donc ça m'obligeait à repenser totalement ce que j'imaginais au départ de la communication. Donc ça aussi, c'est on est obligé, effectivement, ce que tu disais, de déduire et choses, et même en tant qu'auteur, de se retrouver confronté à des conséquences qu'on n'avait pas imaginées. Donc ça aussi, c'est un plaisir. Quand on a ça,
oui, moi, c'est le plaisir d'écriture.
Le grand plaisir, moi, en tant qu'auteur, c'est quand je me rends compte que l'histoire ou le monde est plus intelligent que moi. Alors là, moi, je suis content.
Moi, ça m'arrive tellement souvent que je suis un type royalement heureux, je peux oublier.
Olivier, j'aurais une autre question. Parce que tu as aussi une formation liée à la science politique, à l'histoire, et tu écris aussi bien de la science-fiction que de l'Uchronie, ou du moins des romans qui se passent dans un contexte historique. Alors, est-ce qu'il y a le même plaisir à partir sur des bases réelles ? Parce que quand on écrit, par exemple, pour Les Loups de Prague, il faut bien partir, il ne faut pas raconter trop de bêtises par rapport à la réalité. Même si c'est cohérent, il faut que ça reste cohérent avec des faits qu'il faut rechercher. Alors que la construction du Melkin, c'est un autre plaisir, il faut aussi une cohérence.
Alors, moi j'ai toujours écrit, depuis mon premier roman, Structura Maxima, avec des contextes culturels, plus exactement. Et justement, le plaisir que j'ai quand, donc, Structura Maxima, il y avait un contexte italien, Les Loups de Prague, c'est un contexte tchèque, parce que j'ai fait ma thèse sur la Tchécoslovaquie, donc, et j'ai vécu à Prague pour ma thèse, donc je m'en suis servi. Et même dans le Melkin, il y a cet aspect culturel. L'avantage de la science-fiction par rapport à un roman historique, parce que j'aurais pu faire un roman historique sur Prague, mais l'avantage, c'est que j'ai aucun fâcheux qui va venir me dire « Ah oui, mais à cette époque-là, les boutons de guêtre, ils n'étaient pas comme ça. » Or, ce qui m'intéressait, c'est l'esprit, les images de Prague, le golem. Donc, ce qui est l'avantage de la science-fiction, c'est qu'on prend, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, je prends ce qui m'intéresse dans un contexte culturel et historique, je le décale dans la SF, par exemple, dans le Melkin, par exemple, j'ai un monde autrichien, austro-hongrois, mais dans cet univers, il se trouve qu'il n'y a aucun chevaux. Les chevaux ont disparu. Et ce qui fait que les carrosses, les calèches, sont conduits, sont tirés par des motos. Donc on décale comme ça, et moi, c'est un vrai plaisir. J'ai écrit une nouvelle dans un recueil, une anthologie qui s'appelle Destination Univers, sur un peuple mongol. Donc je me suis documenté sur les mœurs et les coutumes mongoles. J'étais remonté jusqu'au poème de Douva. Bon, j'ai regardé sur l'anthropologie mongole, donc je me suis documenté sur des documents historiques et scientifiques sur l'anthropologie mongole. Mais mes mongols sont des nomades, certes, sauf qu'ils ne sont pas à cheval à parcourir la steppe. C'est les villes, donc imaginez Oulan-Bator, etc., qui sont montées sur des plateformes avec des pattes et qui dévalent, qui dévalent la plaine comme ça. Donc, c'est l'avantage, c'est le plaisir moi que j'ai à utiliser ça, c'est d'utiliser ce que je sais de mon contexte, des contextes historiques, sociologiques et autres, et puis de le décaler et de voir qu'est-ce qui reste finalement d'important dans la culture mongole si on la place dans le futur. Qu'est-ce qui reste d'important du monde tchèque, Prague, etc. si on le décale dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a d'important, et en fait moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer ce qu'il y a de spécifique dans ces cultures, indépendamment de l'aspect purement historique où on est justement à regarder le bouton de guêtre, où on est focalisé par le fait d'être conforme à un réel absolu. Et nous, on décale et on essaye de trouver un côté, une essence ou un esprit de ces aspects culturels. C'est ça qui m'intéresse dans ma démarche.
Bon. Après, en côté science-fiction, tu peux toujours avoir des scientifiques un peu fâcheux qui viennent raconter « Oui, mais ça, c'est pas possible.
» À la différence près que, d'abord, il y a un partenariat avec les scientifiques, et c'est une chose qui est formidable, il y a très souvent la possibilité d'intéresser des scientifiques, qui sont en général les fans, en leur disant « Voilà, j'ai tel problème, j'ai besoin d'une étoile double qui va faire une supernova à un moment donné, par exemple, cas bien connu. Je voudrais le faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et en général... Le savant qui connaît, il se gratte la tête, il dit, tu sais, j'ai beaucoup mieux. Et à partir de là, on a un partenariat et on s'éclate avec des choses qui sont absolument fascinantes et qui viennent de ce partenariat-là. Et il ne faut pas croire du tout qu'on s'en prive. On a autour de nous des gens qui sont calés dans un certain nombre de domaines parce qu'aucun de nous n'en sait assez pour écrire les livres qu'on écrit. Moi, je suis spécialisé dans un tout petit domaine, et puis quand je vais mettre des vaisseaux dépliables autour d'une supernova en cours d'explosion, ben, il y a quand même des informations qui me manquent. Et là, au moins, j'ai des gens qui me parlent. Donc après, si on a fait ce boulot, eh ben, je dirais pas qu'on est inattaquable, parce qu'on n'est jamais inattaquable, mais on a fourni, je dirais, suffisamment d'éléments pour que la suspension d'incrédulité fonctionne, c'est-à-dire pour que les gens se disent « Ouais, si on admet le principe qu'il y a quand même un vaisseau extra, un machin autour d'une supernova, ça se passera sans doute comme ça. » Et c'est agréable et c'est raisonnable. Et toi, tu fais ça remarquablement parce que, par exemple, quand tu fais des écologies et des extraterrestres, tu les dotes d'un système de pensée, de jeu, etc., qui permettent de dire « Ok, ils sont étranges et j'arrive à comprendre de quelle façon. »
Alors, pour la vie, c'est plus facile que moi, je trouve, parce qu'elle est tellement plastique qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis, j'allais dire, il y a les caractéristiques physiques et il y a les fonctions. C'est-à-dire ce que ça remplit dans un écosystème, quelle fonction telle... Et là, on peut jouer énormément et on peut inventer beaucoup, parce que, encore une fois, la vie est partout, et la vie interagit avec l'inanimé aussi. Donc si on change l'inanimé, si on change le contexte inanimé, on change aussi les formes de vie qui s'y trouvent. Donc il y a énormément de germes imaginaires dedans. Pour les systèmes physiques, là, parce que toi, au moins, t'es un scientifique, moi, je ne suis pas du tout, donc je suis beaucoup plus dépendant de gens qui, eux, savent. Et autant, alors pour les systèmes physiques, moi ce que j'ai retrouvé, c'est que vraiment la pierre d'achoppement, c'est la gravité. Souvent, c'est là-dessus qu'on peut pas vraiment tricher, comme dans Homal par exemple, qui est une sphère de Dyson, j'ai volontairement triché, c'est-à-dire que c'est un système qui n'est pas possible, réellement parlant, si on utilise, sans utiliser une super science. Donc des éléments qui n'existent pas, et puis une gravité induite artificiellement, sinon ça ne fonctionne pas en fait, parce que simplement le fait de la faire tourner, la force centrifuge, à l'échelle d'une sphère de Dyson, d'une unité astronomique de rayon, il faudrait qu'elle atteigne des vitesses relativistes pour que la force centrifuge arrive à 1G globalement au niveau de l'équateur, quoi. Donc c'est tout simplement possible. Mais comme je suis auteur de science-fiction, c'est pas ça qui m'arrête. Je fais l'impasse là-dessus, je le sais. Dans le contrat implicite avec le lecteur le sent. J'ai pas eu de. Alors c'est peut-être arrivé, mais j'ai pas eu de feedback de lecteur qui a refermé au mal en disant ah non, là la gravité ça marche pas, au revoir. En général, quand on accepte qu'il y ait une sphère de Dyson, on accepte quelques petites entorses à la réalité pure. Mais parce que le but, c'est pas d'être, encore une fois, c'est pas d'être vrai, c'est d'être vraisemblable. Et après, c'est une question de niveau. Star Wars, c'est de la science-fiction. Ça n'a rien de réaliste à aucun niveau. Voilà. Mais on s'en fiche. Parce que c'est un problème esthétique. Le fait d'être dans un... voilà.
Oui, donc on retrouve ce besoin de cohérence et d'esthétisme, quitte à voilà le réalisme, le réel tel qu'on l'imagine n'est pas forcément nécessaire, mais il faut qu'après tout le reste soit vrai.
Oui, en fait, l'art science, c'est une démarche esthétique en soi, en fait. On croit que c'est simplement pour ressembler à de la science, mais pas du tout. Ça veut dire que le contrat avec le lecteur, c'est on va pousser au maximum le curseur du réalisme. On va essayer d'être au plus près, et je base mon immersion, l'immersion de la fiction sur la vraisemblance la plus absolue possible.
Oui, la règle, et c'est une règle absolue, je pense, elle dit « respecte tes propres règles ». Tu choisis le faisceau de règles que tu veux, c'est toi le patron, mais une fois qu'elles sont posées, respecte-les. Et d'une certaine façon, c'est une leçon de vie aussi, la science-fiction, parce que c'est quelque chose qu'on est amené à faire dans notre vie, ou au contraire, vis-à-vis duquel on est amené à tricher. Et nous trichons explicitement, mais à l'intérieur d'un système que nous avons nous-mêmes formé, et avec pour seul objectif de vous faire plaisir. Donc le plaisir vient à la fois du respect de nos règles et de la transgression de ce respect.
Alors,
sexuellement, je peux vous dire que ça doit être très compliqué. Non.
En écoutant Laurent, je pense aussi au lien qu'il peut y avoir entre science-fiction et jeux, et les jeux de simulation, et les jeux... Donc l'univers du jeu vidéo se retrouve souvent très proche.
Oui, le jeu d'une manière générale, mais le jeu vidéo en particulier, parce que c'est un système en action.
Oui, c'est ça, c'est qu'on peut en donner des règles beaucoup plus complexes que dans un jeu habituel.
Non, et on peut tester des choses, c'est ça surtout. C'est cette notion de test, donc d'expérience, l'expérience vidéoludique, elle est dans cette notion de test, en fait.
D'ailleurs, il y a un certain nombre de systèmes qui permettent de simuler comme ça, en changeant des règles de création d'un univers, de création de la vie, des règles d'interaction. Et on peut voir ce que ça donne. François, par rapport... Oui, c'est dur, la première table ronde du matin. Et par rapport, comme ça, à l'univers du jeu, est-ce qu'il y a une similitude qui te semble évidente entre la création d'un univers cohérent et l'écriture ?
C'est difficile à dire, parce que, enfin, en ce qui me concerne, parce que moi, ayant travaillé concrètement sur des jeux vidéo... Pour moi, le jeu vidéo, c'est vraiment, je vois l'aspect extrêmement laborieux de l'élaboration d'un jeu.
L'écriture, c'est plus simple.
Ah ben, l'écriture, c'est on est tranquille chez soi, sur sa petite table, on fait ce qu'on veut, on n'a de compte à rendre à personne. Quand on fait un jeu vidéo, il faut trouver 30 millions de dollars déjà, c'est pas facile. Et après, il faut fédérer des équipes de centaines de personnes sur des années. Et en plus, il y a un paramètre auquel on pense rarement. On croit souvent que faire un jeu vidéo aujourd'hui, c'est un peu comme faire un film. Il y a une différence fondamentale qui est qu'il y a du développement sur un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il faut inventer un code, un programme, et même si aujourd'hui il y a des outils qui sont déjà tout préparés, mais il y a quand même toujours une phase de développement qui est complètement imprévisible. On ne peut pas savoir, même avec les meilleurs programmeurs du monde, on ne peut pas savoir combien de temps exactement elle va durer. Et donc moi je vois ça, ayant travaillé sur des grosses productions de jeux vidéo, je vois la difficulté et le côté extrêmement laborieux, et donc du coup le côté plaisir du jeu vidéo... pas assez lointain. Et Mais par contre, c'est vrai qu'il y a, sur l'aspect création d'univers, et notamment en SF ou en fantasy, il y a un côté amusant, je trouve, dans certains jeux de simulation, ce qu'on appelle les RTS, c'est-à-dire les jeux de stratégie temps réel, ou les jeux massivement multijoueurs en ligne comme World of Warcraft, qui sont des jeux qui ont des règles très complexes, auxquels on met longtemps à s'habituer, il y a même des tutoriaux prévus pour s'habituer, etc. Il y a un apprentissage, parce qu'on ne vient pas comme ça en 5 minutes. Et déjà, c'est amusant de voir que des gens qui ont... moi, je sais, parce que j'ai un jeune gamin qui n'a pas du tout envie de travailler à l'école, mais il est prêt à passer un temps dingue à apprendre les principes d'un jeu vidéo. Mais vraiment, c'est fascinant. Moi, je fais pareil. Donc déjà, il y a un côté apprentissage colossal de cet univers ou de ces règles. Et très souvent, en tout cas pour les meilleurs jeux, il en sort quelque chose d'inattendu, auxquels même les développeurs n'avaient pas pensé. Des façons d'utiliser tel ou tel aspect du jeu, des façons... des fois, il y a une sorte d'économie parallèle qui se crée. Enfin, il y a vraiment tout un univers parallèle vraiment pas prévu au début, qui est façonné par les utilisateurs et qui rend la chose vivante. Bon, il faut que le jeu soit bien fait pour ça, ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est tout à fait étonnant, tout à fait frappant.
Il y a un exemple sur ces jeux qui me fascine, c'est un jeu qui s'appelle EVE Online, qui est un truc assez démentiel où finalement les joueurs sont tous dans le même univers, parce que dans World of Warcraft il y a plusieurs, tandis que là ils sont dans le même il y a plusieurs serveurs, tandis que là il y a qu'un seul serveur pour tous les joueurs, russes, tout ce que vous voulez, ils sont tous dans le même univers et qui on laisse des parties d'univers où ils peuvent se développer. Alors ils peuvent créer des objets, ils ont réussi à exploiter des choses pour faire des rayons de la mort qui détruisent. Et on voit des choses se faire avec des batailles comme nous, auteurs, on ne ferait jamais. C'est-à-dire des milliers de vaisseaux, et on voit les choses. Et avec des vidéos, ils font des films quasiment avec ça. Il y a des choses extraordinaires dans ces univers-là.
Oui, il y a des systèmes qui s'effondrent, oui. Des alliances de milliers de joueurs qui sont infiltrés de l'intérieur et qui s'effondrent en une minute, des alliances qui durent 6 mois ou un an et qui s'effondrent en une minute.
Ça existe aussi, le clic malheureux qui fait que tout d'un coup, il fallait faire renouveler une concession. Il y a un joueur qui a oublié de faire le clic pour renouveler, pour payer les 150, les 1000 machins d'unités de cela. Puis du coup, il n'y a plus la concession, donc du coup, tous les adversaires arrivent et ça devient une guerre intergalactique comme ça. Et ça, il n'y a personne, il n'y a pas d'entité au-dessus qui vient réguler cet univers-là. Et les joueurs s'auto-administrent. Et on a des choses vraiment fascinantes à ce niveau-là.
Là, vous avez, ceux qui ont créé ça ont créé quasiment un univers, le côté des murges, des programmeurs. Vous, une fois que le livre est terminé, on ne sait pas, quoi. Chacun peut imaginer autre chose, mais là le jeu, c'est, ouais. Ça va encore plus loin.
Mais de toute manière, quand j'écris, je considère que, donc quand j'écris, j'ai plusieurs versions d'écriture, le travail éditorial, etc. Et donc tant qu'il y a du travail éditorial, pour moi l'œuvre, le roman, il est vivant de mon point de vue. Et à partir du moment où ça sort en librairie, etc., pour moi le roman, il est mort. C'est-à-dire, je me suis séparé, j'ai fait le deuil. Ou d'une autre manière, c'est une discussion qu'on avait, où c'est comme avoir un enfant qui ensuite
va vivre
sa vie. Et c'est le lecteur qui va justement vivre avec, et qui va imaginer des choses, faire ses propres images. Et alors, ce qui est toujours fascinant, c'est qu'ils vont trouver que tel personnage, il a des yeux de telle couleur, même si on ne l'a pas décrit. Enfin, il va avoir une image de truc qui va. Et ils sont convaincus de ça, et je dis oui, d'accord. Et c'est fascinant parce que c'est là que ça vit, le roman il vit, et on est fiers que finalement l'enfant il prenne il s'envole, et puis les lecteurs font ce qu'ils veulent avec. Et en tant que lecteur, en tant qu'auteur, j'essaye justement de créer ça, c'est-à-dire justement de ne pas tout décrire, de laisser une marge. L'art de l'auteur, c'est la différence entre l'explicite et l'implicite. Il faut qu'il y ait une part d'implicite. Il faut laisser tout le monde, mais moi je considère qu'il faut laisser une place au lecteur pour qu'il soit bien dans cet univers-là. Pour qu'il puisse se dire, c'est comme si vous achetez un appart, vous louez un appart, déjà meublé, Et ben, vous allez quand même punaiser un poster, vous allez, pour que ça soit à vous. Donc le lecteur, moi ce que j'aime, c'est que le lecteur fasse ça aussi, qu'il puisse s'imaginer, et puis, qu'il puisse s'imaginer faire avoir une aventure dans cet univers, ce genre de choses. Donc ça, pour moi, c'est important. Le deuil, c'est-à-dire je ne suis plus propriétaire du roman à partir du moment où il est publié.
Je me rends compte même des fois qu'en ayant lu un livre, au bout d'un moment, on s'imagine des choses qui n'ont pas eu lieu dans le livre. Ça arrive. Et on se pose des questions, mais je l'ai trouvé dans ce livre et on ne sait plus où, parce qu'en réalité, ça n'y est pas. Et ce qui fait que l'univers de l'auteur continue à vivre chez le lecteur bien longtemps après le livre. Ça arrive. Ah oui. Ça doit arriver de temps en temps qu'un de vos lecteurs vous parle d'un truc qui ne s'est jamais passé dans votre livre.
Je ne sais pas si j'ai eu cette expérience-là.
Enfin, je sais que moi, il m'arrive de reprendre.
Mais c'est ce qui se passe, oui, mais c'est normal. Hein, c'est, comme tu disais, une fois que. Un livre n'est pas une simulation. C'est le produit d'une simulation interne qui était celle de l'auteur au moment de la création. Mais le livre, il est fixé. Et effectivement, le fait de laisser des potentialités, ça permet aux. C'est ça qui fait les fanfictions, c'est ça qui fait le fait que. Et puis même, ça ensemence la culture de la SF. C'est-à-dire que on est aussi le produit de Jack Vance, de nos lectures de Herbert, de Vance, de voilà, c'est ça la culture SF en fait. Mais ça, c'est valable partout.
Là, je vois que le temps tourne et j'aimerais juste en conclusion vous demander votre plus beau plaisir en lecture de science-fiction.
En lecture.
Oui. Puisqu'on parle de la lecture plaisir, parce que après chacun pourra venir discuter et choisir chez vous quelque chose pour se faire plaisir.
Je ne sais pas répondre à ta question parce que j'ai des milliers de livres et de choses qui relèvent du plaisir. Et je veux dire, j'ai des choses qui sont profondément émouvantes pour moi. Lire pour la première fois les Vermillions de Sens de Ballard, lire la nouvelle Le Temps considéré comme une hélice de pierre semi-précieuse de Delaigny et se dire, face à un texte comme ça, de se dire, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit, toutes les règles l'interdisent et pourtant ça marche. Et de s'apercevoir qu'on va être obligé de jeter mais littéralement tout ce qu'on a appris pour dire ok, on va reprendre le problème différemment. Ça c'est un plaisir, mais en même temps je peux te parler de Cordwainer Smith, je peux te parler des premiers Bradbury, je peux te parler de tout ce que tu peux imaginer, donc je n'ai que du plaisir. À la limite il faudrait que je te raconte toute ma vie sexuelle et alors là vraiment on va y passer un temps fou.
Dans mes années de lecture intensive, j'ai lu quand même pas mal de fois Noé de Stéphane Vuhl, qui est un roman d'une très très grande richesse,
un livre univers,
d'une très grande richesse à la fois iconographique et puis aussi conceptuelle. Donc il y avait les deux aspects où j'ai rarement vu dans un livre autant de concepts nouveaux. C'est dans ce bouquin qu'il y a les premières nanomachines décrites précisément avec des fonctions de nanomachines. Mais c'est un exemple parmi plein d'autres. J'en avais pas du tout conscience à l'époque, hein, d'ailleurs, hein, d'avoir lu quelque chose de visionnaire, par exemple, à ce niveau-là. C'est après avoir lu L'âge de diamant de Neil Stephenson, je me suis dit, mais j'ai déjà lu ça, les essaims de nanomachines travaillant en réseau avec une fonction, et du traitement de big data, où les personnes... comme ils sont espionnés en permanence par des nanomachines dans nos eaux, il y a des sortes de modes des étudiants qui font des grimaces simplement pour fausser les statistiques qui scannent les visages en permanence, etc. On est dans du pur il y a un mois ou deux, je voyais la mode de mettre des masques. Toujours le même masque pour par rapport aux caméras, mais c'est exactement ça. Donc et ce bouquin date de 77. Et donc il y a ce bouquin-là qui m'a quand même que j'ai relu quand même pas mal de fois. Et mes meilleurs souvenirs récents, bah j'en ai plein. Je suis comme vous, mais en tant qu'auteur, il y a Egan quand je l'ai découvert à la fin des années 90. J'ai retrouvé l'espèce de jubilation intense qu'avait provoqué chez moi un Isaac Asimov quand j'avais 12 ans. C'est-à-dire, mais du coup avec ma sensibilité d'adulte, je ne pensais pas retrouver cette intensité de jubilation face à quelque chose d'aussi abstrait qu'un le développement d'un concept en fait. Parce qu'on a toujours... C'est, alors pour le coup, je pense que c'est plus immédiat, le plaisir est plus immédiat quand on a affaire à une image. C'est pour ça que Jack Vance, c'est un auteur qui est attachant, c'est parce qu'il produit de une imagerie très, très riche, très, très porteuse de sens. Et c'est un côté immédiat. Egan, on est à l'opposé de ça, on est dans l'abstrait, il génère peu d'images. Mais les concepts sont tellement barrés, sont tellement stratosphériques que moi j'ai retrouvé cette espèce de, ouais, de sidération, mais dans un sens jubilatoire.
Olivier ou François ?
Je m'y colle. Ben, depuis tout à l'heure, je me creuse la tête pour savoir ce que je vais répondre et j'ai un peu de mal à trouver. Spontanément, j'avoue que vraiment les livres les plus. Enfin, peut-être le livre qui m'a le plus marqué en SF, moi, c'est Ubik.
Ah oui.
Mais moi, j'ai une affinité particulière avec la SF ontologique, c'est-à-dire qui redéfinit la perception de la réalité en cours de route. Et celui-là, c'est quand même, mm-hmm. c'est quand même indépassable dans le genre. Étant plus jeune, bah, comme je suppose beaucoup d'entre nous, je suis entré dans la science-fiction directement par Fondation. Donc, pas par la petite porte. Et donc ça, c'est vrai que c'est un livre qui est resté très présent, très ancré dans mon imaginaire. Mais sinon, peut-être celui auquel je reviens le plus souvent, c'est tout simplement Hyperion. Hyperion, c'est vraiment un livre auquel je pense régulièrement. Donc ouais. Forcément, quelque part, ça doit être un livre qui a le plus compté pour moi, s'il revient si facilement dans mes pensées, quoi.
Olivier.
C'est comme tout, on se souvient quand même toujours de sa première expérience sexuelle, donc c'est pareil pour mon science-fiction. Moi, c'était un peu particulier parce que c'était un livre dans la collection Mille Soleil, c'était le Fahrenheit 451. C'est le premier livre de science-fiction que j'ai lu et qui m'a vraiment... Enfin, j'étais happé par le truc et j'étais pris par ça. Et parce que c'était un bel ouvrage en plus. C'était avec une couverture cartonnée, il y avait une très belle illustration. Enfin, il y avait l'aspect ouvrage. Pour moi, c'était un vrai livre. Même si c'était une collection qui était en fait pour les jeunes, mais j'avais l'impression pour la première fois, d'une part, qu'une manière, on me traitait en adulte. Donc j'avais ça. Et puis il y avait cet aspect de Bradbury. Ensuite j'ai fait les chroniques martiennes, j'étais vraiment fan de Bradbury. Mais cette première expérience de lecture dans un monde comme ça, avec un monde hypothétique, je me souviens, donc j'ai toujours en mémoire les murs d'écran de télé, ce genre de choses. Donc ça m'a marqué définitivement au niveau de la lecture plaisir et de ça. Et en même temps, c'est un livre sur les livres. Donc c'est le fait de devenir un livre à la fin, c'était c'est pour ça que j'ai un attachement assez particulier à cet ouvrage.
Écoutez, merci à tous. Et je vous invite à continuer les discussions et à poser vos questions aux auteurs directement sous la bulle du livre et à trouver plein de raisons d'avoir beaucoup de plaisir.